La série que vous regardez retrace l'histoire de la vie de l'une des personnalités iraniennes les plus influentes dans l'histoire contemporaine. Il se rendit au Liban, terre de ses ancêtres, pour y semer le germe de l'éveil islamique. L'imam Moussa Sadre, appartenant à la lignée du prophète de l'islam et aux familles des grands dignitaires religieux d'antan, fut enlevé en pleine révolution islamique d'Iran par le régime de Kadhafi. L'ancien régime libyen s'imaginait pouvoir mater ce combat libérateur. Mais lui et les enfants de l'école de l'imam Khomeini au Liban non seulement créent un nouvel ordre, mais encore mirent à genoux l'armée de l'un des régimes les plus arrogants dans le monde, faisant ainsi la fierté du monde de l'islam.
Signe de bravoure. Quand Frangier et Kataeb se trouvèrent face à la ferme volonté de la Syrie de renverser Zahrar et Zahle, ils cédèrent et déclarèrent leur accord pour le cessez-le-feu. Le même jour, Hafez Assad déclara que la Syrie ne permettrait pas qu'une partie remporte la victoire contre l'autre. Cela signifiait que les différends entre les deux parties devaient être réglés par la voie du dialogue. Alors la question du document légal fut mise en avant, quelque chose qui était considéré comme un nouveau pacte entre les Libanais. Le document, s'il était appliqué, pourrait contribuer à la répartition équitable des portefeuilles ministériels et des sièges du Parlement entre musulmans et chrétiens. En outre, il soulignait la nécessité pour les forces de la résistance palestinienne de respecter les conditions prévalant au Liban.
On se rencontra à l'occasion d'une réunion. Sayed Moussa demande à ce que la réunion soit très brève et loin des tapages médiatiques. Les personnalités qui étaient venues de la part de Sayed Moussa étaient le docteur Fakhreddin, Fakhri Alameh, Nabi Berri, Sayed Hossein Al-Hosseini et de la part de Kamal Jumbalat, M. Mohsen Dalloul et Essam Nemat. On ne peut pas dire que la situation se déroula dans une ambiance fraternelle. C'était une réunion houleuse. Le principal thème de discorde portait sur l'urgence de mettre fin à la guerre civile au Liban, alors que Kamal Jumbalat insistait sur le fait que ses objectifs n'étaient pas encore atteints. Il estimait que si l'on s'arrêtait à Junien ou à Lyon semaine, et si on applique le document légal, on sera obligé de donner une série de concessions. Mais si la guerre continue 2 mois, on remportera définitivement la victoire. Aux yeux de Sayed Moussa Sadr, la persistance de la guerre civile représentait un gros risque, à savoir le massacre des milliers de personnes. L'autre partie disait qu'il faudra oublier les sangs versés pour des objectifs politiques, mais l'imam Moussa Sadr disait qu'il était un religieux.
Jumblat s'engagea alors dans un conflit politique avec la Syrie et appela à la révision et l'évaluation du document légal. Il le qualifia d'inadéquat alors qu'il avait participé lui-même à son élaboration, car il avait confié le poste de président aux chrétiens. Mais Jumblat cherchait à obtenir plus de concessions. Les partis de gauche apportèrent leur soutien à la prise de position de Jumblat, lancèrent une guerre médiatique contre la Syrie et l'imam Moussa Sadr et réclamèrent ensuite la révocation du document légal. Ainsi, le Liban replongea dans la guerre et l'effusion du sang. Les organisations palestiniennes et le mouvement du Fatah s'enfonçaient également dans le bourbier du Liban. Ils commirent également l'erreur d'entrer en conflit avec la Syrie. Suite à ces affrontements, les régions de Tabaret et de Tal Zatar furent également occupées et Sayed Moussa Sadr fut, à 13 reprises, pris pour cible d'attentats. Mais la question qui se pose est de savoir si le mouvement des déshérités était responsable de la guerre civile.
Je pense que non. À mon avis, ce sont les forces nationales qui déclenchèrent cette guerre, à la fois en 76 et 77 à Beyrouth. Mais aussi les événements qui éclatèrent dans la région de Sour. L'importante pour elle, c'était de nettoyer les régions qui abritait les forces alliées avec la Syrie. Or, certains furent tués à Beyrouth et d'autres furent capturés. Certains autres furent déplacés et même certaines organisations eurent complètement disparu.
L'imam Moussa Sadr déclara les partis de droite comme responsables de la première partie de la guerre civile au Liban et les partis de gauche comme responsables de la seconde partie des violences, notamment après l'adoption du document légal. L'imam Moussa Sadr considérait le document légal comme un cadre logique pour le dialogue. Les partis de droite renoncèrent à une partie des concessions. En plus, la question palestinienne pouvait trouver une issue via ce document. La question était de savoir pourquoi les partis de gauche insistaient toujours sur la poursuite de la guerre civile.
La première question qui suscita une vive polémique et différence avec la gauche concernait le développement de la guerre vers la région de Jabal au Liban. Quelle en était alors la nécessité? Quel lien cette guerre avait-elle alors avec la région libanaise de Jabal et ses habitants, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou druzes? S'il y avait un problème à Chaïa, c'était aux yeux de la droite en raison de l'existence des camps de réfugiés palestiniens. Mais il n'y avait aucun camp palestinien à Jabal. Quelle en était alors la raison? Avant la guerre de Jabal, une série de rencontres eut lieu entre le chef des groupes et l'imam Moussa Sadr qui leur fit part de sa position. Il souligna que la question principale était celle de Rhodes et qu'il appartenait au groupe de résistance palestinien de libérer Rhodes et qu'il allait soutenir ses groupes au sud du Liban. Il demanda aux groupes palestiniens de rester dans leur camp et que l'imam Moussa Sadr et ses forces allaient les soutenir et en permettre à personne de leur faire du mal. Il les appela alors de ne pas se rendre à Jabal, qu'ils n'avaient rien à faire dans cette région. Certains répondirent à l'imam que la voie de Rhodes passait par la route de Lain Touré et de Meitin. Il jugea inacceptable cette logique, indiquant que dans son optique, l'unité libanaise venait de la question de Rhodes et que les intérêts du Liban puisaient dans la lutte contre la libération de Rhodes.
Dans cette période sensible, l'imam Moussa Sadr comprit que toute rencontre entre les Libanais en l'absence des représentants des Palestiniens et que toute rencontre entre Palestiniens et Libanais sans la présence des Syriens serait impossible. Il était presque difficile d'organiser une rencontre entre Palestiniens et Syriens, en raison notamment de la méfiance grandissante de part et d'autre. Or, l'imam Moussa Sadr se rendit compte que l'unique moyen de restituer la confiance pour résoudre cette crise était le renforcement de l'entente arabique, notamment sur les deux fronts de la Syrie et de l'Égypte. L'imam Moussa Sadr effectua alors des visites dans les pays arabes comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Koweït, ce qui dura plusieurs mois. Il s'entretint avec les dirigeants de ces pays et s'employa ardemment à réaliser l'entente arabique et à prévenir une guerre civile au Liban.
En ce qui concerne la réunion de Riyad et du Caire, j'entendais directement de l'imam Sadr lors d'une réunion privée à Baalbek qu'une conférence devrait se tenir dans 2 semaines au Caire ou à Riyad et qu'un communiqué serait publié lors de cette conférence sur le déploiement des forces des maintiens de paix arabes au Liban et la protection des intérêts politiques, économiques, et etc.
En 1976, une conférence à 6 se déroula à Riyad. Les participants s'accordèrent sur la fin de la guerre civile au Liban et la formation des forces de dissuasion arabes chargées d'appliquer le cessez-le-feu et de restaurer la paix et la stabilité au Liban. Le Liban retrouva la stabilité et le calme. Mais les affrontements se transportèrent au sud, car les forces de dissuasion arabes ne voulait pas aller au-delà de la ligne rouge que les Israéliens avaient déterminée. C'est pourquoi ses forces restèrent en dehors de la région du Sud.
L'envoyé des États-Unis se rendit au Liban pour prétendument empêcher l'intervention de la Russie dans les affaires du Liban. Derrière tout cela se trouvaient Henry Kissinger et Israël. Les forces arabes ne devaient pas progresser au-delà de la ligne de Nabatieh, à la place de la ligne de Saïda, initialement prévue. En plus, les avions syriens ne devaient pas survoler cette région. Les hélicoptères ne pouvaient que transporter les soldats sans avoir l'autorisation de mener des opérations militaires. Le ciel du Liban était sous contrôle total d'Israël. Hafez Assad avait sa propre vision et position. Nous ne voulons pas l'évaluer. Il pensait que cela serait moins préjudiciable que la domination d'Israël sur le Liban.
Mais l'imam Moussa Sadr poursuivit ses efforts et multiplia ses rencontres avec les dirigeants et les responsables libanais et les dignitaires religieux des pays arabes. Dans ses discours et interviews avec les médias, il mettait en garde ouvertement contre l'éclatement d'une grave crise au sud du Liban et avertissait que cette région ne devait pas être dominée par Israël.
Le complot du démembrement du Liban avait beaucoup d'autres dimensions, au point que les plans changeaient sans cesse. L'imam Moussa Sadr déploya de grands efforts pour lutter contre ce complot. La décision définitive sur laquelle étaient tombés d'accord les partis de gauche et de droite et les grandes puissances consistait à remettre la Bekaa à Tripoli à la Syrie. Les Druzes devaient former un gouvernement dans leur région et le sud du Liban devrait être consacré aux Palestiniens pour logement et la création d'un gouvernement palestinien en exil. Cela signifiait la réparation du Liban. Qui résista alors devant ce plan et défendit la cohésion du Liban? L'imam Moussa Sadr, bien entendu. Du point de vue des puissances se trouvant derrière ce plan, il devait être éliminé. En effet, l'un des objectifs de ce plan visait à jeter les bases d'un gouvernement palestinien en dehors de la Palestine occupée. Ces objectifs ne pourraient être atteints qu'en cas des affrontements continuels entre les chiites du sud du Liban et les Palestiniens. Et c'était justement ce qu'Israël souhaitait.
Avant la première agression israélienne contre le Liban en 1978, les opérations d'envoi d'armement de la Libye vers les ports du sud du Liban avaient atteint leur point culminant. Tout le monde était surpris de voir comment les bateaux transportant des armes arrivaient à ce port, livraient leur cargaison et retournaient sans faire l'objet d'agressions des navires de guerre israéliens.